Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aérer régulièrement les pièces, ce conseil fait désormais partie des gestes barrières répétés et bien connus pour lutter contre le Covid-19. Mais au-delà, veiller à la qualité de l'air que nous respirons constitue un impératif pour préserver au long cours la santé de nos poumons. Car notre santé respiratoire et notre bien-être dépendent évidemment de cet environnement. Une qualité de l'air extrêmement variable, que ce soit dans la rue, en milieu urbain, à proximité d'un champ cultivé, au milieu du trafic automobile ou dans le voisinage d'usines. Pensez à protéger ses poumons, également quand on travaille dans un cadre fermé et peut-être surtout à l'intérieur de notre lieu de vie, surtout lorsque l'on utilise pour cuisiner des combustibles qui dégagent des particules comme le charbon de bois. Respirer un air sain, c'est aussi éviter d'employer des produits ménagers ou certains insecticides. Évidemment, en matière de santé respiratoire, il n'est pas toujours possible de contrôler toutes ces conditions pour des impératifs pratiques ou pour des raisons financières. Mais des recommandations assez simples permettent de limiter un certain nombre d'expositions. Et à côté de la prévention, il est essentiel aussi de reconnaître les signes d'inconfort, les symptômes qui doivent alerter et conduire à consulter pour pouvoir être pris en charge le plus tôt possible. Et nous le verrons au cours de l'émission, cette pollution qui peut menacer notre santé respiratoire prend des formes différentes en fonction des régions du monde, de nos conditions de vie, de nos occupations. Pour en parler, on retrouve en ligne de la Guadeloupe le professeur Chantal Raérisson. Bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes pneumologue au CHU de Pointe-à-Pitre et vous présidez, professeur Raérisson, la Société de pneumologie de langue française et l'espace francophone de pneumologie. Les pollutions propres à certains contextes en Côte d'Ivoire, nous donnerons la parole au professeur Véronique Yoboué, qui est professeur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, spécialiste de la pollution de l'air et de ses impacts. On retrouvera aussi en ligne de Tunisie le professeur Habib Guédira, professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Tunis. Et puis à l'occasion de la prochaine journée mondiale des malades de la lèpre, 69e édition, on va donner la parole en fin d'émission au docteur Rock Christian Johnson, qui préside l'Association internationale contre la lèpre. Il est aussi conseiller médical à la Fondation Raoul Follereau en poste au Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Alors d'un côté, ces fameux facteurs de risque, de l'autre, les pathologies respiratoires associées. Si vous le voulez bien, professeur Chantal Raérisson, on va aborder cette question des sources de pollution et de leur impact sur la santé des poumons en fonction de la nature de ces pollutions, également des régions du monde. Si on s'arrête par exemple dans le contexte qui est le vôtre aujourd'hui, les Antilles, la Guadeloupe, comment décrire les principales causes de maladies pulmonaires associées à l'environnement et précisément pour notre sujet du jour, ces pollutions de l'air, même si, évidemment, on ne va pas oublier complètement le tabac.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on garde en tête, bien évidemment, qu'un des polluants intérieurs reste le tabac. Mais dans le contexte actuel, il y a un point commun sur l'ensemble de la surface du globe. C'est tout d'abord la pollution en rapport avec le trafic automobile et les différentes industries. Il y a également de la pollution liée à tout ce qu'on va brûler à l'extérieur. Des fois, on va mettre le feu pour brûler soit des végétaux, soit encore, si on n'a pas accès à la déchetterie, on va brûler un certain nombre de choses, de caoutchouc, et tout ceci va générer la présence de particules fines. En Guadeloupe, il y a également une autre source de pollution qui est transitoire au cours de l'année, qui sont les brumes du Sahara, qui vont venir être une source de pollution et à l'origine d'un certain nombre de symptômes pour lesquels les patients vont consulter.
Des brumes du Sahara, mais c'est un rapport avec la région géographique, le Sahara, ça traverse toute l'Atlantique ?
Oui. Oui, bien sûr, tout à fait.
Ça paraît absolument incroyable quand on l'entend comme ça.
Voilà.
Et il y a une question, parce que tout à l'heure, dans l'introduction de cette émission, j'ai dit aérer. Mais avec ce que vous venez de dire, finalement, on peut se poser la question, quand l'air extérieur est pollué, est-ce qu'il est bon, malgré tout, d'aérer ? Peut-être que cette question va vous paraître complètement idiote, mais je l'assume.
Non, il n'y a pas de question idiote, c'est une très bonne question. On ne sait jamais où mettre le curseur, mais effectivement, vous avez raison, quand il y a une pollution qui est très très importante à l'extérieur, dans ce cas-là, non, on va plutôt essayer de se calfeutrer pour éviter que l'intérieur ne soit trop pollué. Mais la question à laquelle vous faites allusion, c'est difficile d'y répondre, parce qu'en fait, on sait qu'il y a une communication constante entre l'air extérieur et l'air intérieur, et les deux vont influer en permanence.
Est-ce qu'on peut dire qu'en fonction des régions du monde, il y a une forme de hiérarchie de ces risques pour nos poumons, en fonction des pratiques des uns et des autres, avec bien sûr en tête les facteurs de développement, urbanisation, industrialisation.
Oui, tout à fait. On va dire à chacun sa source de pollution en fonction aussi des industries qui vont s'installer à proximité ou pas des logements et des habitations. Donc c'est vrai que dans les pays à haut niveau de revenus, on est surtout sur une pollution d'origine automobile avec aussi quand même des sources de pollution d'origine industrielle. On va dire très peu de pollution liée à ce qu'on appelle la biomasse, la combustion de charbon ou de bois, alors qu'effectivement dans des pays à niveau de revenus intermédiaires ou plus faibles, on va avoir une pollution automobile qu'on connaissait pas bien maintenant, et ma collègue en parlera tout à l'heure, mais qui reste très importante, surtout dans les grandes villes. Une pollution liée aux industries également, en fonction du type d'industrie, et va se rajouter à cette pollution, la pollution liée à la biomasse, notamment au milieu rural.
Alors si on s'arrête sur les affections, les principaux troubles associés à cette exposition prolongée ou non à ces facteurs de pollution, professeur Raerisson, il faut citer d'abord quels symptômes et peut-être surtout quelles maladies, quels risques de pathologie.
Alors, avant de répondre à votre question, si vous voulez bien, il y a un élément que je voudrais porter à l'attention des auditeurs.
Oui.
C'est de considérer qu'aujourd'hui, on sait que la pollution a un impact pendant la grossesse, très tôt. Hein. Avant, on pensait que ça arrivait, une fois qu'on est né. Maintenant, on sait que déjà, quand on a une femme qui est enceinte, en fonction de l'endroit où elle habite, si elle est dans un endroit très pollué, l'impact de la pollution sur le développement du poumon du futur bébé à naître va commencer à ce moment-là.
Est-ce que ça veut dire que ça va, par exemple, favoriser des asthmes précoces ou des atteintes des bronches, type, on connaît celle-ci chez les bébés, les bronchiolites ou des pneumonies ?
Oui, alors c'est ce qui a été montré notamment pour l'asthme. Alors on sait qu'il y a une diminution de la capacité respiratoire des enfants à l'âge de 4 ans quand ils ont été exposés dans le ventre de leur maman à un environnement très pollué. Donc effectivement, augmentation du risque d'asthme et augmentation également du risque de bronchite ou d'infection du poumon, ce qu'on appelle encore des pneumonies.
Et alors, si on est là sur des maladies au plus long cours, type atteinte chronique, on va dire davantage à l'âge adulte, quels sont les risques ?
Alors les risques, ils sont de plus en plus connus. On retrouve bien sûr l'augmentation du risque d'asthme, l'augmentation également du risque d'une maladie que l'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie que l'on connaît plutôt, qui est plutôt liée au tabac en facteur de risque principal. Mais on sait aujourd'hui dans le monde qu'on développe de véritables BPCO alors qu'on n'a jamais fumé, si on est exposé par exemple à la combustion de la biomasse. Ensuite, on a également d'autres maladies qui sont peut-être un peu moins connues du grand public, que l'on appelle des maladies du poumon interstitiel, une fibrose pulmonaire. Maintenant, on sait que l'exposition à la pollution va entraîner des aggravations, des poussées inflammatoires au niveau de ce poumon. Et il y a aujourd'hui quelques études qui montrent qu'il pourrait y avoir un lien avec le cancer du poumon. Donc vous voyez que pour répondre à votre question, c'est de façon très large, tout un tas de maladies respiratoires qui, sur le long terme, peuvent se développer si on est exposé à des niveaux de pollution élevés.
On va partir dans un instant pour la Côte d'Ivoire. Juste avant de retrouver votre consoeur, le professeur Yuboué, j'ai une question. Quand on parle de particules fines, professeur Raerisson, de quoi s'agit-il précisément ?
Alors, ce terme de particules fines est en fait un terme générique qui concerne simplement la taille des particules, c'est-à-dire des particules qui vont être auparavant inférieures à 10 microns, puis ensuite on a dit inférieures à 1 micron. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on analyse ces différentes particules, elles peuvent être de composition et de caractéristiques physico-chimiques très différentes. Voilà. Et elles vont avoir aussi un impact sur la santé qui va être différent. Donc c'est simplement un terme très général qui concerne la taille des particules et qui souligne que ces particules, comme elles sont fines, elles peuvent pénétrer très profondément à l'intérieur du poumon.
Et comme promis, on part tout de suite pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Professeur Véronique Yoboué, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Oufouet-Boigny d'Abidjan, spécialiste de la pollution de l'air et de ses impacts. C'est bien notre sujet aujourd'hui dans Priorité Santé. Professeur, comment le contrôle de la qualité de l'air dans les villes de Côte d'Ivoire est-il assuré aujourd'hui ?
Je dirais que le contrôle en tant que tel n'est pas réellement assuré. Mmh. Mais par contre, au sein de l'université, moi, j'ai une équipe de recherche qui s'appelle Aérosol Pollution et qui appartient au laboratoire des sciences de la matière, de l'environnement et de l'énergie solaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Au sein de cette équipe, à travers différents projets de recherche, que ce soit européens, français ou franco-ivoiriens, nous avons au fil des temps, donc je dirais 10 ans d'années, nous avons pu acquérir des instruments de mesure de pollution. Et nous avons défini des sites de pollution dans la ville d'Abidjan et aussi dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et à partir de ces mesures-là, effectivement, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un suivi à des échelles de temps qui peuvent aller du jour, du mois, de l'année, pendant 6 ans, des concentrations de certains polluants gazeux emblématiques et des polluants particulières atmosphériques.
Est-ce que ces données sont accessibles, professeur, au grand public ?
Bon, ces données ont fait l'objet de pas mal de publications, pas mal de thèses, je crois qu'on en a eu 3. Et oui, bien sûr, c'est-à-dire que si on nous demande, on les met à disposition. C'est arrivé que le ministère de l'Environnement nous a demandé des données pour pouvoir faire de la modélisation des projections dans le futur. On a travaillé en étroite collaboration, il n'y a aucun souci. Mais malheureusement, bon, au sein de l'université, on n'a pas un site pour héberger tous nos travaux et nos résultats. Mais on est conscient de ça et on y travaille.
Professeur Yoboué, vous avez donc des moyens de mesurer. Est-ce que vous avez identifié les principales sources de pollution ? On disait 2 villes pour l'instant où il y a ces contrôles. À Abidjan, production de particules fines, ça vient d'où précisément ?
Alors, comme je vous ai dit, je veux juste rappeler quelque chose. On a quand même suivi la concentration gazeuse et la concentration particulière.
Ouais.
Mais ce qui a attiré notre attention, c'est que vraiment toutes les mesures qui ont concerné la pollution particulière a été ces mesures-là, ces concentrations de PM2.5, comme vous l'avez dit d'emblée à la présentation de cet échange. Mmh. Ces particules-là, effectivement, ont des concentrations très élevé. Je dirais Abidjan et je dirais même en Afrique de l'Ouest parce qu'on a travaillé quand même sur certaines capitales africaines. Mmh. Et j'avoue que ces polluants particuliers là, les polluants gazeux, eux, ils ne dépassaient pas les limites, les normes indiquées par l'OMS. Par contre, en ce qui concerne la pollution particulière et particulièrement les concentrations des petites particules en suspension dans l'air appelées les PM2.5, qui sont des particules qui ont des diamètres inférieurs à 2.5 micromètres, excèdent fréquemment les limites fixées par l'OMS. Donc ce constat est vrai dans plusieurs villes, comme je l'ai dit, et que ce soit à Cotonou, que ce soit à Abidjan.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des risques pour la santé respiratoire ?
Bien sûr.
Et ça me ramène à ma fameuse question. Qu'est-ce qui produit ces particules fines spécifiques ?
Alors, oui, ces particules fines, de façon générale, on a quand même 4 sources de pollution anthropique. On a la source trafic, avec donc un parc vétus, un carburant pas très propre, donc je ne rentrerai pas dans trop de détails. On a la source qu'on appelle feu domestique, qui est la source qui produit de l'énergie domestique et qui sert à la cuisson pour les mamans dans les ménages Et aussi, dans la surchauffe domestique, on a aussi cette activité commerciale qui est le fumage de poisson ou de viande pour vendre dans les marchés. Donc, et la source aussi qui, pour fabriquer le charbon de bois.
Qui est ensuite, voilà, ensuite vendu. C'est vrai qu'on voit ça dans toutes les villes. Ça veut dire qu'il y a aussi des populations à risque, professeur Véronique Yoboué. Ça veut dire que, par exemple, les mamans qui préparent le charbon de bois, les mamans qui font le poisson fumé, elles sont particulièrement exposées.
Tout à fait, tout à fait. Nos études l'ont bien souligné, l'ont bien marqué, parce qu'on a travaillé en étroite collaboration avec l'Institut Pasteur. Pour les études épidémiologiques, on a travaillé en étroite collaboration avec des centres de recherche de toxicologie en France, à Paris. Et on a montré, nous, nos concentrations, on a bien montré que les concentrations à l'intérieur des maisons où on utilise le bois et le charbon, on a des concentrations de PM2.5, voire parfois 3 fois, 4 fois plus élevées que la norme journalière conseillée par l'OMS. Pour les fumeuses de poissons de bois, alors là, ça passe jusqu'à 5 fois plus élevé. Et ces femmes-là, il faut le dire, elles sont en permanence de 8h à 18h dans cette fumée de bois, en train de fumer le poisson pour des activités commerciales, pour survivre, bien sûr. Et le danger, c'est que souvent, ces femmes-là ont leurs enfants de 0, je dirais, hein, de bon, un mois à 6, voilà, sur le dos. Pendant qu'elles font cette activité, où elles couchent l'enfant à côté du fourneau qui, pour fumer le poisson de
Donc
bois.
Donc il est exposé.
À la maison. Oui, bien sûr, ils sont exposés. Et les mamans et les enfants. Et on a des études, on a déjà une thèse dessus qui a bien montré que les enfants de 0 à 6 ans étaient prédisposés à faire des crises d'asthme, qui ont des problèmes respiratoires prononcés, qui réveillent. Voilà, des maladies endormies en eux, voilà.
Et on comprend à quel point, justement, certains peuvent se demander qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires, à quoi ça sert de mettre tout cet argent, justement, dans cette recherche. Et là, on le comprend, c'est indispensable. Hein. On peut comprendre après, quand une maman vient consulter, on lui demande qu'est-ce que vous faites comme métier. Si elle dit, bah, écoutez, je fume du poisson, on peut orienter un diagnostic.
Oui, bien sûr. On peut orienter un diagnostic. On peut suivre même ces femmes. Et on a un tout nouveau projet, justement, une ANR qu'on a eu avec... Puisque je travaille en étroite collaboration avec un laboratoire, le laboratoire d'aérologie de Toulouse. Et j'ai même fait ma thèse là-bas. Et on vient d'avoir une ANR qui a été financée. Justement, on va travailler sur cette problématique, aller en profondeur, travailler avec des médecins. Qui viendront faire un suivi de prise de sang pour regarder un peu le taux d'oxygène, analyser le crachat, faire de la spirométrie sur les enfants. Et nous, en même temps, de façon continue, on fera la mesure intérieure et extérieure des polluants, des PM2.5, parce que c'est cela qui nous intéresse.
C'est du concret. Une dernière question, professeur Yoboué, en conclusion. Est-ce que vous avez le sentiment que la pollution de l'air en Afrique est sous-estimée?
Bon, je dirais... Peut-être qu'elle est sous-estimée, peut-être volontairement ou peut-être par ignorance. Et que moi, par expérience, je me rends compte que, par exemple, ces femmes qui fument le poisson, j'ai un exemple pour attirer votre attention, elles utilisent un bois, le bois d'EVA, qui est un bois qui est peu polluant que le bois normal, c'est-à-dire les rocos ou quoi que ce soit. Et quand je leur dis, mais madame, vous vous rendez compte que l'enfant que vous posez à côté de vous, ou vous-même que vous respirez, vous empoisonnez de jour en jour. Elle dit, bon, on remarque que quand on rentre, on dort mal, on tousse, les choses. Oui, je dis, donc on attire l'attention. Mais ce qu'il faut dire, que ce qui nous manque ici, moi je pense, que tous les travaux qui sont faits au sein de l'université doivent être connus. On doit aller vers les politiques et faire savoir aux politiques ce qui est fait. On doit sensibiliser la population. Parce que cette source de feu domestique est une source qui est, je dis, qui est vraiment activée par nous-mêmes. C'est-à-dire nos femmes à la maison. Si elles sont conscientes que c'est dangereux et qu'il y a des solutions, qu'on peut proposer des solutions parce que l'État a déjà des solutions prioritaires et il y a une de ces solutions qui vise justement à réduire cette pollution due au feu domestique.
Donc on peut agir concrètement pour améliorer la santé future de ces femmes et de leurs enfants. On vous remercie infiniment, hein, professeur Véronique Yoboué. Très très bonne journée à Abidjan. On retrouve en ligne de Pointe-à-Pitre de la Guadeloupe notre invité, le professeur Chantal Raérisson. On comprend que c'est essentiel de disposer de ces indicateurs. C'est vrai pour la population, c'est vrai pour les soignants, pour donner des réponses adaptées, puis travailler aussi sur la prévention.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment primordial parce que nous sommes dans des sociétés où on fait quand même beaucoup de curatifs. On traite les personnes quand elles ont déjà des symptômes ou qu'elles sont malades. Or, on est la qualité de l'air qu'on respire. On sait qu'il y a un impact. Et je rejoins tout à fait ma consoeur sur ce point, c'est-à-dire que il faut faire de la vulgarisation, porter à la connaissance des politiques les connaissances scientifiques et également du grand public, parce que si on arrive à œuvrer tous ensemble pour diminuer ces sources de pollution, alors on aura moins de malades, on aura moins d'enfants qui vont faire des bronchites, des pneumonies, des personnes qui vont avoir des problèmes respiratoires. Donc ça, c'est un point très important. Je voudrais juste revenir sur un point. C'est vrai qu'on parle toujours de niveau de pollution et c'est vrai que lorsqu'il y a des pics de pollution, quand les niveaux de pollution dépassent les normes édictées par l'OMS, on sait qu'on va avoir un impact sur la santé. Mais on sait également que la pollution, ce qu'on appelle la pollution de fond, c'est-à-dire que la pollution à laquelle on est exposé tout au long de l'année, même si elle est assez faible, il peut y avoir également un impact sur la santé de façon cumulée. Vous voyez, donc même quand on vit dans une ville qui n'est pas très polluée, si on a une fragilité d'origine génétique, dans ce cas-là, cette exposition, même considérée comme bonne, elle peut avoir un impact sur la santé au bout de quelques années. Voilà, donc les deux ont un impact. La pollution de fond, la pollution quotidienne, et puis les pics de pollution au cours de certains moments de la journée.
Et tout de suite, un premier témoignage, une auditrice, on part pour le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Et c'est Berthe qui est en ligne avec nous. Berthe, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce quartier dans lequel vous vivez ? C'est quoi votre environnement ?
Exactement, je suis à Douala, dans un quartier. Nous vivons à côté d'une zone industrielle. Nous sommes séparés uniquement par une rue. Et toutes les nuits, vers 2h, 3h, 4h, nous nous rendons compte que nous étouffons une odeur de charbon ou de caoutchouc brûlé et nous étouffons dans la maison. Et le matin, quand nous réveillons, nous rendons compte qu'il y a une couche qui se pose sur les fleurs, sur les seaux, sur tout ce qu'on laisse dehors, une couche noire.
Une couche de poussière noire, donc il y a des traces visibles.
Poussière noire, oui. Et même en journée, parfois, vers 11h, à cette heure-ci, quand on marche, il y a des débris qui tombent sur nous, sur les passants, sur les personnes qui passent dans ce quartier-là, qui circulent en fait. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'à la longue, avec cet étouffement, avec cette couche qu'on retrouve le matin et tout, est-ce que les enfants que nous avons à la maison, et même nous-mêmes qui nous sommes déjà un peu adultes, après 5 ans, 10 ans, est-ce qu'ils n'auront pas de problème ? Est-ce que ces entreprises qui sont à côté de ces quartiers ne vont pas nous causer des problèmes à la longue ?
J'ai juste une petite question, Berthe. Vous savez ce qui est fabriqué ou ce qui est brûlé dans ces fabriques en face de chez vous ?
C'est du fer.
Du fer, d'accord.
Du fer qui est transformé.
D'accord, du fer qui est transformé, qui doit être fondu, donc il y a aussi des émanations. En tout cas, vous, est-ce que vous avez déjà des symptômes, on va dire, vous toussez, vous réveillez parfois la nuit, est-ce que les enfants ont des petites maladies au niveau des poumons ?
Non.
Pour l'instant, ça va plutôt bien.
L'odeur, cette odeur qui nous étouffe la nuit, mais rien d'autre.
Professeur Chantal Raérisson, moi, ça m'impressionne énormément, cette situation que nous décrit Berthe, des poussières noires le matin, une atmosphère irrespirable, et on comprend qu'elle puisse s'inquiéter pour la santé de ses enfants. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Effectivement, dans ce qu'elle décrit, malheureusement, on a d'autres cas qui ont été décrits avec des enquêtes qui ont été faites, et on sait que si on reste exposé, on habite à proximité de ce type d'industrie, on risque de développer des problèmes respiratoires. Alors, ça peut être soit le nez qui pique, les yeux également, d'avoir le nez bouché, d'avoir mal à la tête le matin quand on se réveille. Puis de faire des bronchites à répétition ou des risques d'asthme chez les enfants ou chez les habitants. Donc c'est vrai que la distance là où on habite par rapport à ce type d'industrie, elle est primordiale. Et donc effectivement, il faudrait s'en éloigner dans la mesure du possible.
Ça, c'est toujours les conseils théoriques. Berthe, j'imagine que c'est très difficile d'envisager un déménagement.
Oui, maintenant c'est difficile.
Et c'est quelque chose que vous prévoyez avec la famille à peut-être plus long terme ?
À long terme, oui.
Mmh. En tout cas, après ce qu'on a entendu avec le professeur Aérisson, on vous y encourage. Mais bien sûr, ça, ce sont des conseils. Après, la réalité, notamment la réalité économique, c'est tout autre chose. On vous remercie en tout cas beaucoup hein, pour ce témoignage dans Priorité Santé. Professeur Aérisson, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après ce titre de Daudeline Tan Nu. J'espère que je l'ai bien prononcé.
Yo trappé tendou pour tomber pour nous à bout. Nous vais frapper tambour, jouer pour être tout bout. Yo trappé tendou parce que t'es bête et jaloux. Nous gué frappé tambour pour yo pévoué yo sans doute.
Priorité santé sur RFI, nous parlons de l'impact de la pollution sur la santé des poumons, santé respiratoire. C'est la spécialité de notre invité, le professeur Chantal Raérisson, pneumologue au CHU de Pointe-à-Pitre, présidente de la Société de pneumologie de langue française. Une autre question, tout de suite. On part pour la Guinée, c'est à Dabola qu'on retrouve Junior. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous aviez une série de questions qui concernent l'air que l'on respire comme les pratiques à la maison. On vous écoute, Junior, allez-y.
Très bien. Merci et bonjour à votre invité. Par rapport au sujet, vous savez, ici, le moment, les femmes, nous, plus souvent, ils font la cuisine avec du bois mort ou du charbon. Alors, la question est de savoir, la première question, quels seront les impacts nuisibles pour la santé de ces femmes dans l'avenir?
D'accord, ça on y a déjà partiellement répondu. Vous avez une autre question?
Oui, j'ai une deuxième question.
Allez-y.
La deuxième question se pose au niveau de la pollution, de l'environnement. C'est-à-dire les déchets brûlés dans les rues avec les fumées des usines et des automobiles.
Ouais.
Donc la population arrive à inhaler cela.
Oui, on va arrêter Junior parce que nous on parle de la pollution de l'air, mais là il y a de la pollution sonore, il y a tellement de bruit autour de vous qu'on a vraiment du mal à entendre. Donc cette question-là, elle est vraiment très très importante. Cette question que pose cet auditeur de Guinée, Junior, professeur Chantal Raérisson. L'impact du charbon de bois, on en a parlé tout à l'heure, la biomasse, notamment pour celles et ceux qui cuisinent, quand on fait aussi du fumage, mais surtout les déchets brûlés. C'est vrai que dans de nombreux contextes, il n'y a pas vraiment de ramassage des ordures, il y a des feux, il y a des combustions à ciel ouvert. Quand on arrive dans certaines capitales, on peut dire que ça empeste. Est-ce que ça a un impact pour la santé, professeur Aérisson?
Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Hein. Donc, je rappelle que le risque de ce type de pollution, c'est également pour les tout-petits un risque d'infection et de pneumonie hein, chez les enfants de moins de 5 ans. Et puis, chez les femmes et toutes les personnes exposées à ce type de nuisance environnementale, c'est d'abord la bronchite chronique, c'est le fait de tousser, hein, d'avoir une inflammation, une irritation des bronches. On va beaucoup tousser, on va avoir des crachats. à tel point que souvent on pense à la tuberculose, alors que quand on va faire des examens, finalement, on trouve pas de tuberculose. Et ensuite, si ça continue à court terme, à moyen terme, le risque de BPCO, c'est-à-dire qu'on va s'essouffler, on va être gêné pour respirer alors qu'on n'a jamais fumé. Donc il y a vraiment un risque pour la santé des populations d'avoir des déchets qui sont brûlés à ciel ouvert, sachant que souvent il y a des habitations autour, hein, en fonction des conditions météo, donc le risque est vraiment très important.
Professeur Hérisson, il y a aussi un certain nombre de fausses croyances, peut-être qu'il faut donner certaines précisions aussi à celles et ceux qui nous écoutent. Le message de Joël de Kinshasa, il l'a laissé sur la page Facebook de Priorité Santé. Il écrit « Nos ancêtres cuisinaient au feu de bois, ils ne tombaient pas malades et vivaient longtemps. Mais les fumées industrielles sont nocives pour la santé et provoquent des maladies dangereuses. » Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte, comme Joël, qu'il y a un petit peu une confrontation entre ce qui était fait avant et qui était plutôt plus sain, et aujourd'hui, l'époque moderne, l'industrie, où est-ce que c'est finalement des choses qui ne sont pas forcément vraies, parce que auparavant, tout faire au feu de bois, c'était pas forcément non plus la panacée.
Non, alors je pense qu'effectivement la question que l'auditeur a posée, elle est tout à fait juste. Les contextes sont différents. Quand on parle de combustion au feu de bois ou avec du charbon, il y a des cuisines intérieures et puis il y a des endroits où on fait la cuisine à l'extérieur.
Dans la cour.
Donc nos ancêtres, effectivement, en fonction des continents, certains faisaient la cuisine à l'extérieur parce qu'ils avaient déjà conscience que la fumée, ils étaient gênés quand ils étaient à l'intérieur. Mais en fonction des conditions de température, on a encore des endroits où la cuisine au feu de bois se fait dans des cuisines qui sont pas ventilées à l'intérieur, et où là il va y avoir des concentrations très importantes. Et comme on a rappelé tout à l'heure, les femmes et les enfants vont passer plusieurs heures par jour en étant très exposés. Donc je pense qu'il y a quand même une fausse croyance. On a fait des choses pendant des années, on connaissait pas à ce moment-là l'impact sur la santé aussi, il faut le dire. Et aujourd'hui, on sait que être exposé à la pollution, ça augmente aussi le risque de maladies infectieuses. Ça augmente le risque de tuberculose, ça augmente aussi le risque de Covid-19. Donc maintenant, on connaît un peu mieux l'impact aussi de la pollution sur la santé. Et puis enfin, pour répondre à votre auditeur, c'est vrai qu'on n'est pas tous à égalité vis-à-vis de ces agressions environnementales. Ça va dépendre aussi de notre génétique. Hein, voilà.
Et en termes de prévention, professeur Hérisson, le dépistage. Alors, est-ce qu'il y a des examens qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des consultations régulières qu'il faut prévoir, des explorations particulières pour éviter finalement une prise en charge trop tardive?
Oui, tout à fait. Je pense qu'à partir du moment, déjà, quand on a des symptômes, quand on tousse et qu'on crache, qu'on est un peu essoufflé, il faut pouvoir consulter, en parler à son médecin pour que, le cas échéant, il puisse déjà vous examiner. S'il peut mesurer l'oxygène au bout du doigt avec un petit saturomètre, faire un examen du souffle pour dépister la BPCO, dépister l'asthme, c'est quand même un point très important. Et puis, même si on n'a pas de symptômes, on l'a vu tout à l'heure avec ma collègue de Côte d'Ivoire, si on sait qu'on fume du poisson et qu'on fait des activités où il y a de la fumée, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour consulter. Si on doit aller voir son médecin pour autre chose, c'est bien de lui en parler, de lui dire « Vous savez, moi je fais telle profession, donc comme ça il le sait et il peut, dans ce cas-là, prescrire un examen du souffle, un examen de dépistage ou de diagnostic précoce. »
Et tout de suite, une autre illustration, on part pour la Tunisie.
RFI.
Et en ligne, le professeur Habib Guédira, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, madame la présidente de l'SPLF.
De la Société française francophone de pneumologie, de langue française.
Ah, d'accord.
Voilà. Professeur de pneumologie, vous-même à la faculté de médecine de Tunis. On parlait tout à l'heure avec notre invité, avec le professeur Hérisson, des sources de pollution propres à chaque contexte. Alors, vous diriez, pour vous, la Tunisie, l'ennemi numéro un des poumons des Tunisiens, c'est quoi?
Alors, l'ennemi numéro un, c'est encore le tabac. Mmh. Et encore le tabac, parce que le tabagisme est encore très prévalent. Et vous avez des hommes adultes, il y a à peu près 60% qui fument. Ce qui fait que, et ça le problème, c'est que le tabac étant tellement prévalent qu'il masque un peu toutes les autres menaces. Mais bon, on a pris conscience, bien sûr, du problème de la pollution. Ça fait 20 ans que la Tunisie travaille dessus. Bon, c'est vrai que depuis 2011, on se concentre un peu moins avec des nouvelles émergences de priorités. et surtout depuis ces deux dernières années, mais le fait est là. Nous avons qu'en Tunisie, il y a le problème de la pollution. Alors, le problème, si vous voulez, de la pollution en Tunisie, c'est que c'est très hétérogène. En fait, la Tunisie, il y a deux Tunisies. Il y a la Tunisie du littoral, qui est une Tunisie moderne, si vous voulez. Donc, c'est la pollution moderne des véhicules, des voitures, de la pollution automobile, de l'industrie et tout. Et puis, il y a la Tunisie de l'intérieur, qu'on appelle de l'intérieur, donc des terres où c'est plutôt un mode de vie rural et beaucoup d'exposition aux fumées de la biomasse. Ça existe encore, ce mode de vie rural, avec donc on utilise soit pour le chauffage ce qu'on appelle le canoun, donc c'est un petit récipient en terre cuite qui va avoir du charbon pour se réchauffer. Là, c'est à part le fait que ça peut bien sûr donner des intoxications au CO, c'est une source importante de pollution. Et puis là, les préparations culinaires à base de feu de bois. Donc on, voilà, donc le bois qui est brûlé pour préparer, donc ou même pour faire du charbon. Donc il y a beaucoup d'expositions. Pour vous, alors le problème c'est que nous on est venu en Tunisie, si vous voulez, depuis 30 ans. On est venu avec cette idée, cette conception duale où l'asthme, ce sont les allergènes, et la PCO, c'est le tabac. Et on n'a pas pris conscience vraiment de la pollution. Alors, quand je me rappelle, quand je suis revenu de France il y a 30 ans, on recevait beaucoup de femmes venues de zones rurales qui avaient une obstruction bronchique réelle, importante. Et nous, on disait toujours, c'est de l'asthme vieilli. Parce que pour nous, ce n'est pas des femmes tabagiques. Donc, il n'y a pas de raison. Après, on a compris, on a fait des études dans une zone, enfin, dans une ville où il y a un mode de vie mixte à Kasserine. Donc, il y a des femmes exposées à un mode de vie rural et l'autre à un mode de vie plutôt urbain. Et on a vu que ces femmes-là qui vivent encore en mode de vie rural, donc tout en étant dans cette ville pour pouvoir comparer avec les autres, elles développent une réelle BPCO due à au mode de vie.
La fameuse cuisinière à bois.
Voilà, exactement.
Et est-ce que les études montrent que les atteintes respiratoires sont plus présentes qu'auparavant ? Parce que finalement, avec l'industrialisation, avec le développement des automobiles, on a multiplié les facteurs de risque.
C'est vrai, c'est-à-dire que c'est tout le mode de vie qui a changé. Donc, il fait, bon, l'asthme a changé parce que aussi on est venu à un mode de vie plutôt urbain avec son stress, avec beaucoup de facteurs. Le fait aussi que les gens ont tendance à ventiler moins à l'intérieur des maisons. Vous savez, avant, dans les zones rurales, et on le vit encore, les gens le matin quand ils se réveillent, ils ouvrent les fenêtres, les portes pour faire tout ventiler. Alors dans les villes, non, les gens ont tendance à chauffer, donc il y a plus d'humidité, plus de chauffage, plus d'allergènes. Donc c'est très difficile de se dire ça a changé à cause de la pollution. C'est sûr que ça a changé, ça a augmenté la prévalence de l'asthme. Mais le problème, c'est que c'est de faire de la relation de cause à effet avec la pollution est difficile. Sauf dans certaines petites villes, certaines villes, où la pollution est tellement importante, par exemple à Gabès, c'est une ville qui vit une pollution importante à cause de l'industrie, si vous voulez, liée au phosphate. Une transformation de phosphate qui libère donc beaucoup de substances, soit des particules fines ou du NOx ou de SO2, etc., qui fait que là,
c'est bien identifié.
Oui, c'est un nuage. Quand on entre dans Gabès, on voit un nuage de pollution. Donc, c'est vraiment là où les services des urgences et tout reçoivent, ils savent, ils font un lien.
On arrive à la conclusion de cet échange, professeur Guédira. J'ai une question très pratique. Hein. Conseil du quotidien pour celles et ceux qui nous écoutent, des mesures individuelles pour améliorer justement la qualité de l'air et limiter ces risques pour les poumons.
Alors individuellement, bien sûr, il faut que le jour où il y a des pics de pollution, éviter d'ouvrir des fenêtres. À la limite aussi, pourquoi ne pas porter des bavettes qui diminuent au moins certaines particules. Et puis prendre conscience que la pollution est là. C'est le problème de conscience. Si on prend conscience, on va prendre des mesures. Et puis bon, de mode de vie, de chauffage ou de cuisson au bois, il faut prendre conscience que ça peut être risqué. Et les femmes, j'en ai voir, quand elles préparent, elles s'exposent, elles n'ont pas conscience. Donc elles restent à inhaler de grandes quantités de ces fumées. Donc c'est vraiment travailler sur la conscience et l'éducation des gens pour qu'ils sachent qu'il y a un risque pour leur système respiratoire que de s'exposer à ces fumées, à cette pollution. On a l'impression qu'on n'a pas encore assez conscience de ce problème. Si on a conscience, on va changer, certainement.
Merci beaucoup, professeur Habib Guédira, d'avoir été en ligne avec nous de Tunis. Et c'est vraiment la francophonie, on a bien compris, un bavette, cache-nez, masque. Et on en a actuellement tous sur le nez. J'en ai même un au moment où je vous parle. On évoquait tout à l'heure certaines fausses croyances sur la santé des poumons, professeur Chantal Raérisson. J'ai deux témoignages à vous soumettre qui peuvent sembler peut-être contradictoires. D'un côté, il y a Blessing qui écoute RFI à Bukavu en RDC. Et il écrit qu'à force de vivre en ville, on en arrive à oublier que l'on n'a pas l'air qu'il faut. Blessing raconte comment en 2018, en allant au village, il s'est rendu compte à quel point cet air pur lui avait manqué et il a vraiment senti la différence. Et puis j'ai le témoignage de Bienvenue du Bénin, qui lui aussi, de retour au village en famille, est revenu à la cuisine au feu de bois avec à la clé un sentiment d'étouffement pendant la préparation. Ça résume un petit peu l'essentiel de ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, l'importance de l'environnement, mais aussi l'importance des pratiques personnelles.
Oui, tout à fait. On voit bien que effectivement, le fait de vivre dans les grandes villes a permis de diminuer la pollution d'origine domestique en fonction du niveau socio-économique, parce que on a moins de cuisine au bois, mais on a plus de pollution industrielle ou de pollution liée au trafic automobile. Et puis quand on est à la campagne, effectivement, on a moins de trafic, moins de pollution liée aux particules fines d'origine automobile ou d'origine industrielle. Mais par contre, on a des sources de pollution directement liées à la combustion du feu de bois. Donc effectivement, il y a un juste milieu au niveau des pratiques. On sait qu'il y a des traditions, bien sûr, et puis l'accès à d'autres modes de cuisson est compliqué, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir le faire à l'extérieur pour pouvoir diminuer l'impact sur la santé. Ça, c'est un problème très important. Je pense que la plupart des populations s'adaptent. On s'adapte à son environnement, mais il faut être conscient, en fonction de l'endroit où on vit, de ce qui peut impacter notre capacité à respirer, puis la santé respiratoire des futures générations et
avec,
des enfants.
Avec même des risques proprement géographiques. Vous citiez au début ces brumes des sables qui atteignent jusqu'à la Caraïbe. Il y a évidemment les périodes de grand vent dans le Sahel, avec un air quasi irrespirable et le sable qui s'immisce partout. Ça aussi, ça entre en ligne de compte.
Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'effectivement, ce qui est très important en fonction de l'endroit où on est, c'est de prendre conscience des risques et de travailler. Il faut qu'il y ait de plus en plus de programmes aussi de recherche qui soient multidisciplinaires, avec des gens qui connaissent bien la pollution, des médecins et des politiques pour mettre en place, et des ONG pour mettre en place des mesures de prévention. Tout n'est pas forcément compliqué. Il y a des mesures. Il y a eu des tentatives pour transformer, par exemple, les fours à charbon avec d'autres fours qui permettent d'évacuer les sources de pollution à l'extérieur des cuisines. Donc il y a pas mal d'expérimentations en réalité qui fonctionnent, et peut-être que ça sera l'objet d'une autre émission pour
vous. Changer certaines pratiques et penser à de nouvelles installations qui limitent justement ces facteurs de risque. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Chantal Raérisson, d'avoir été avec nous en ligne de la Guadeloupe en dépit du décalage horaire. Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation.
Priorité santé sur RFI.
Ne pas baisser la garde, poursuivre la mobilisation et la sensibilisation contre la lèpre, une maladie qui concerne aujourd'hui 3 millions de personnes, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà des souffrances liées à l'infection, la lèpre reste encore souvent synonyme d'isolement, de stigmatisation. Pour en parler avec nous, Dr. Rock Christian Johnson, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes président de l'Association internationale contre la lèpre, conseiller médical à la Fondation Raoul Folro. Docteur Johnson, une maladie que beaucoup d'entre nous pensent d'un autre âge. Pourtant, la lèpre continue de frapper jour après jour. Quelles sont aujourd'hui les régions, les parties du monde les plus concernées ?
Eh bien, aujourd'hui, la lèpre touche essentiellement les pays pauvres de la planète. Nous avons l'Inde, l'Indonésie et le Brésil. Ces trois pays regroupent environ 80% des nouveaux cas dans le monde. Et le continent africain suit avec environ 20 à 25 000 nouveaux cas chaque année. Je dois dire que ces chiffres, quoique importants, constituent seulement une partie du problème. Parce que la lèpre, c'est des nouveaux cas, certes, mais c'est également des malades qui sont dépistés chaque année avec des infirmités irréversibles. Et ces malades vont garder des invalidités à vie. Troisième aspect du problème, la lèpre, c'est aussi une maladie qui exclut et qui est responsable de souffrances humaines très, très importantes. Donc, la problématique de la lèpre, c'est aussi bien la transmission qui continue avec un nombre de nouveaux cas notifiés chaque année. Ce sont les invalidités et ce sont également les exclusions générées par cette maladie.
Et c'est pour ça qu'on parle d'un véritable fardeau, un fardeau au long cours. Il y a donc la prise en charge, il y a la question du handicap, quand justement eh bien, on agit, on va dire, un petit peu tard, parce que le mal est fait sur les chairs, sur le corps. Il y a le problème de la rééducation. Et cette rééducation, elle est d'autant plus compliquée, hein, Dr Johnson, que ça se passe la plupart du temps dans des zones où l'accès aux soins, aux spécialistes, aux équipements, tout ça, c'est très, très compliqué.
Exactement, exactement. Nous avons l'habitude de dire que la lèpre, c'est au bout de la piste, hein, donc c'est dans les villages les plus reculés. Et dans cette prise en charge, nous avons un médicament efficace, une combinaison d'antibiotiques qu'on appelle la polychimiothérapie. Cette association d'antibiotiques est très efficace. Malheureusement, pour beaucoup de maladies, il y a déjà des invalidités. Et pour cette invalidité, nous avons une stratégie que nous appelons prévention des invalidités et la réadaptation physique. Et justement, pour cela, nous avons besoin de centres de référence avec parfois des blocs opératoires, des facilités chirurgicales, des médecins spécialisés, des capacités d'hospitalisation. Et c'est tout ça qui fait la complexité du problème aujourd'hui. Et c'est justement sur tous ces fronts que la Fondation Raoul Folloreau se bat.
Parce qu'il faut agir justement sur les différents leviers. Alors pendant 3 jours, hein, ce mois de janvier, c'est donc la 69e journée mondiale des malades de la lèpre. Votre fondation, vous l'avez cité, Raoul Folloreau, au sein de laquelle vous êtes conseiller médical, a donné cette année un double visage à la maladie pour montrer en même temps la gravité de la question, mais en même temps pour y associer un message d'espoir. C'est au Bénin que vous avez rencontré cette maman et son enfant.
Oui, Asiba, qui est le visage de notre lutte, de notre campagne cette année, condense dans son histoire toute la problématique de la lutte contre la lèpre. Eh bien, cette dame a eu la maladie quand elle avait l'âge de 6 ans. Il s'est déroulé près de plus de 10 ans entre l'apparition des premiers signes de la maladie et donc le dépistage. Cela traduit la capacité du système de santé avec les soignants qui diminuent. Les agents de santé de premier contact n'ont pas été en mesure de dépister les signes de début de la maladie. Lorsqu'elle a été donc dépistée, il y avait déjà des complications irréversibles. Heureusement que les structures de prise en charge existent au Bénin. Elle a été soignée dans un centre de traitement anti-lèpre à Ouida. Et ce centre de traitement a permis de faire une prise en charge globale de la maladie.
Et si on la voit en photo justement avec cet enfant, c'est parce qu'elle a pu construire une vie malgré la maladie et que, eh bien, il y a eu aussi tout un travail sur son intégration sociale. Il nous reste 30 secondes environ, Dr Johnson. Important, essentiel cette intégration.
Très important parce que nous avons proposé un programme de réinsertion, une formation professionnelle à Siba. Donc, ça permet également de donner un espoir à son enfant Jérémy, qui a été également scolarisé grâce à notre soutien. Donc, c'est toute une chaîne d'interventions qui va du dépistage, la prise en charge, la réinsertion sociale et la réintégration de la personne dans la communauté pour rendre cette personne digne avec de l'espoir qui est symbolisé aussi aujourd'hui par Jérémy et par Asiba qui sont aguerris pour affronter la vie. Et c'est tout le sens de notre combat à la Fondation Raoul Folloreau.
Merci beaucoup. On mettra bien sûr le lien de la Fondation sur la page Facebook de Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Passez tous à Maquée Ophélie, La Seine, Didier Bleu et Laurence Nau. Demain, on parlera de la façon dont le Covid a pu bouleverser certains parcours de vie. C'est quel au long terme ? Épuisement, changement professionnel. On en parle demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et ouvrez grand les fenêtres.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.